Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast, oui, sur le www.radio-g.fr. Ce soir, on va parler de plein de choses, de fun, de chats, d'espace, de souris, de musique classique, de BD sans parole et de labyrinthe. Attention, générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb. L'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro et nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. J'ai le plaisir d'avoir un petit peu avec moi, là, pour le début, Pierre-Benoît.
Oui, bonsoir.
Ça va ?
Rebonsoir les auditeurs et auditrices qui sont toujours à l'écoute du 100.5 FM depuis au moins une heure.
C'est ça. Donc tu vas finir par avouer aux auditeurs que tu as ton duvet et que tu dors dans le studio.
Bah c'est ça, ouais. J'ai la cuisine qui est juste derrière et puis j'ai ma petite chambre, on va dire, dans les locaux de Radio G.
Eh ben, ça permet d'avoir une assistance tout le temps. Est-ce que, vu que je t'ai sous la main, est-ce que tu aimerais nous parler un peu de ta passion pour la bande dessinée ? Est-ce que t'as des choses que t'aimes bien en BD ?
Alors, passion pour la bande dessinée, c'est un bien grand mot, parce que j'ai beaucoup de passion, mais la bande dessinée, c'est pas forcément là où je suis le plus alerte, on va dire. Mais en tout cas, il y a une bande dessinée, une franchise, je sais pas comment on dit, qui a un peu marqué mon enfance au niveau de la bande dessinée, c'est Spirou. Et Fantasio. J'ai lu tout, de A à Z.
Vraiment, même les plus récents
ou... jusqu'à un certain âge, jusqu'à... on va dire aux alentours de 11 ans, 13 ans, grand max, 14. Après, j'ai eu un scooter, donc j'avais autre chose à faire.
Et tu lis plus du tout de bande dessinée ou c'est
Non, pas trop, non.
Manga, comics, rien du tout?
Bah manga, non, ma copine en lit pas mal. Elle aime bien les mangas, beaucoup de cette culture mangaiste.
Culture manga, simplement, je
manga, pense. Culture manga, tout simplement. Mais non... Actuellement, non, je lis pas trop les BD. Super Picsou Géant. Je sais pas si c'est.
Ça reste de la BD, ça.
C'est une bande dessinée.
Un bon classique, en fait.
Voilà, ça aussi, c'est une BD que j'ai beaucoup lue. Étant plus jeune. Okay. Ça sonne, c'est peut-être ton invité.
C'est peut-être mon invité.
J'allais décrocher si tu veux.
Non, je pense que quelqu'un s'en occupe déjà. C'est Nicolas, hein, c'est ça.
Nicolas, ouais.
J'ai perdu les prénoms, je suis nul avec les prénoms. Et du coup, même la partie. On va dire MCU, DCU, c'est des choses qui te...
Comment
le Marvel Cinematic Universe
dit... Ah oui, alors là, pour le coup, non, je suis un très très mauvais, interlocuteur pour parler de ça. Tu vois, par exemple, on m'a amené voir un film, comment ça s'appelait ? Pas Venom, mais un truc dans le style.
Bah si, ça peut être Venom, ouais.
Ouais, et j'ai pas trouvé ça ouf. Et moi, j'ai dit, bah voilà, c'est un Marvel ou je sais pas quoi, et on m'a dit non. Oula, non, non, non. J'ai failli me faire frapper, je crois, à ce moment-là.
Effectivement, c'est Jean-Mathias Xavier qui vient d'arriver dans le studio. On va prendre le temps de le laisser s'installer, puis on en parlera. Tu t'installes où tu veux, fais comme chez toi. Enfin, ça dépend si tu... Enfin, bref, je ne m'étale pas, je ne sais pas ce que tu fais chez toi. Mais bienvenue dans le studio. Pierre-Benoît, mauvais client, en fait.
Marvel et tout, ouais.
Marvel et tout.
Spider-Man ?
Ouais, si, c'est ouais.
Du, oui, je regardais les films au début et tout, mais tout ce qui est Captain America, machin.
Ça te passe complètement au-dessus.
Ah, je suis. Mais ça me dérange pas, hein. C'est toujours des très très bons moments
mais
au cinéma.
C'est le truc que tu vas chercher toi.
Voilà, je suis pas. J'attends pas avec impatience la prochaine sortie, quoi.
Ok. Jean-Mathias, est-ce que tu es installé du coup ?
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, je t'entends bien, n'hésite pas à parler bien dans ton micro.
Ça marche là, comme ça, c'est bien ?
Très très bien.
Ok.
Et ben du coup, est-ce que tu veux rejoindre le débat ?
Alors, eh bien, bien sûr, évidemment, j'entends parler de Marvel, donc... Ton prénom ?
Pierre Benoît. Jean-Mathias, c'est ça ?
Jean-Mathias Xavier, oui.
Jean-Mathias Xavier, qui est l'auteur de Space Kittens, mais on va y revenir juste après. D'ailleurs, tu es là exprès pour ça, hein, quand même.
Un peu, et aussi pour l'autre livre, en fait.
Et l'autre livre. Mais on va...
surtout parler des Space Kittens, quand même.
On parle des deux.
On parle des deux.
On fera de pénalité.
Quel est le débat ?
On parlait en fait des goûts en matière de 9e art de Pierre Benoît, qui sont...
Des connaissances plus que de goûts.
C'est ça.
De la maigre connaissance que j'ai dans les Marvel et puis dans la bande dessinée où je n'ai pas forcément
dans la base culturelle.
Voilà.
À savoir que là, on cite les grosses adaptations bande dessinée, mais il y a plein de films en fait qui sont des adaptations de bande dessinée. On pourrait citer par exemple
Sandman.
Voilà.
Ça, j'ai vu la série du coup. Ouais.
Et t'as bien aimé ?
Ça va.
Ça t'aurait donné envie de le lire ou pas ? Pas vraiment. Okay.
Moi, non, pas trop.
La Ligue des Gentlemen.
Extraordinaire. Là, on est quand même sur du super-héros un petit peu.
Oui, c'est vrai, mais il y a quand même.
Voilà. C'est une bonne base aussi.
Oui, aussi oui.
Watchmen.
Non.
Non plus. 300.
Tintin. Léonidas. Ah, Tintin, oui, bah oui.
le film avec Léonidas et puis la bataille des Thermopyles, c'est l'adaptation d'un comics.
C'est une bande dessinée, là, oui. D'accord. Une comics.
Oui.
Comics.
On a Paper Girls, qui est une série qui passe sur Prime Video, qui est aussi une adaptation de comics. On a Stranger Things, alors qui n'est pas une adaptation de comics, mais qui a eu son itération en comics. Donc le média, en fait, BD fonctionne de manière transversale, que ce soit sur le jeu vidéo, sur le jeu plateau, ou même au cinéma, ou en série, ça se décline à l'infini. C'est pour ça que on pourrait faire des émissions ultra larges, en fait, là-dessus.
Tu prends Astérix, par exemple. Hein,
Astérix.
Alors, décliné en dessin animé et en film. Donc là, on ne peut pas faire mieux.
Et le prochain Astérix, la bande-annonce, qui l'a vu ?
Pas moi, non.
Le film ?
Il y a un prochain film, c'est Astérix...
Film live ?
Ouais.
Film animé ?
Un film live. Ouais. Et c'est l'Empire d'Orient, je crois. Mais
qu'on embrasse d'ailleurs, hein, d'Orient, s'il nous écoute.
Ce n'est que mon avis, par contre. Je n'ai pas envie.
D'aller voir ce film ?
Le prochain, non. Pourquoi pas, mais pas pour moi.
Bref. Après, c'est toujours une question en fait, de bonne adaptation ou pas. Hein. C'est comme les adaptations littéraires. Hein. Quand on voit les adaptations de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, c'est quand même chaud. Quoi.
Et
on part après sur l'aspect littéraire, mais les bandes dessinées, c'est vrai que parfois elles sont bien adaptées, parfois c'est un peu.
Après, tout dépend de ce qu'on appelle l'adaptation. Hein, parce qu'on va avoir l'adaptation stricto sensu. Hein, on parlait de Watchmen. Il y a des fois des séquences qui sont quasiment case par case. Mmh. Il y a des différences, bien sûr, mais ça reste. Est-ce qu'on veut voir. Pardon, je tape dans mon micro. Est-ce qu'on veut voir la même chose que ce qu'on a lu ou est-ce qu'au contraire, on veut une autre interprétation ? Là, le débat est, à mon avis, sans réponse.
C'est ça, moi, j'aime beaucoup les bandes dessinées, en fait, qui sont la base d'une histoire, d'un univers, par exemple. C'est Spirou et Fantasio, je crois qu'à la base, c'est une bande dessinée.
Ah oui, Spirou Fantasio, c'est ça.
Ensuite,
c'est
ça devient un dessin animé et tout. Mais je sais pas pourquoi. Hein, je constate que les bandes dessinées que je lis ou que j'ai pu lire, souvent c'est parce que c'est l'univers de base de ces personnages-là.
Permet d'entrer dedans.
Voilà. Ça n'a pas été d'abord un film ou quoi que ce soit.
Il y a toujours des bonnes adaptations et des mauvaises adaptations. Si on prend Bully Bill, c'est rigolo à lire, mais quand on voit l'adaptation film, c'est raide hein, quand même. Hein. C'est waouh. Voilà.
Bah, c'est toujours particulier. Hein, faut.
Qui est derrière et comment est-ce qu'on veut faire tourner la machine parce que c'est toujours des histoires aussi de d'argent, hein, tout ça. Hein, les gens arrivent et ils veulent gagner du pognon, donc ils vont mettre, désolé Franck, hein, mais Franck Dubosc pour faire le rôle du père de Boule. Et puis,
ah, c'est un film ?
Oui.
Ah, c'est un film.
Boule et Bill adapté en film.
Là, si on prend les BD franco-belges qui ont été adaptés ces dernières années, on a Benoît Brisefer, Le Marsupilami, Spirou et Fantasio, Gaston.
Avec Jamel Debbouze, je crois, le Marsupilami.
Gobu, Is No Good. Alors, on peut les lister. Par contre, je pense qu'on peut lister encore plus facilement celles qui ont été réussies.
Astérix et Obélix.
Mission Cléopâtre. Voilà.
Ouais.
Et
au moins.
Encore, c'est une adaptation qui s'éloigne hyper librement, mais qui fonctionne.
Comme tu disais, en fait, c'est la base en fait, de la bande dessinée. Puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on fait quelque chose qui est différent, mais qui est quand même sympa et qui reste familial ? Ou est-ce qu'on fait quelque chose, on regarde, on fait oh là là, c'est un peu indigeste. Donc c'est toujours tout le problème. Hein. Moi j'attends un jour une adaptation de Blake et Mortimer quand même, parce que ça doit être chaud quoi. Mais bon, voilà. Je suis pas un aficionado de la bande dessinée de Blake et Mortimer, mais ayant travaillé sur le dessin animé d'une adaptation et après pour Canal+, et ensuite de voir la continuité, puisqu'en fait l'auteur Jacobs a quand même laissé la porte ouverte pour qu'il puisse y avoir des suites à sa BD, bah c'est vrai que ça sera intéressant de voir en fait qu'est-ce que les mecs vont en faire de tout ça quoi. Donc
il y a une adaptation que en tout cas j'ai trouvé réussie, c'est Tintin par Spielberg. Je sais pas si c'est produit ou réalisé par Spielberg. C'est
produit et réalisé.
C'est ouais.
Produit et
réalisé, bon là du coup c'est un film.
Je peux pas juger, j'ai pas vu.
Il est pas mal.
Qui est plutôt réussi. Après voilà, c'est les codes Spielberg.
Le seul truc que je trouve qui est dommage dans l'adaptation de Tintin, justement, elle est vachement bien, mais elle arrive trop tard par rapport à l'époque. C'est, moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. C'était une
2014,
belle adaptation.
2015, un truc comme ça.
Mais il aurait fallu que le film sorte, l'adaptation soit. Mais il y avait déjà eu hein, des adaptations, enfin des films de Tintin qui étaient produits par, je crois, c'était en partie par RG, hein, c'était Tintin et les Oranges Bleues. Donc, oui, voilà. Et ça date hein, aussi, hein. C'est 60, dans les années 70. Quoi.
Ouais, c'est des années 70. Alors, ce qui est rigolo avec Tintin, les Oranges Bleues et puis le Lac aux Requins, ouais, c'est ça, que ouais. Ça a été. Il y a eu deux films qui ont à leur tour été adaptés en BD, mais plutôt en feuilleton. Comment on appelle ça en... c'est des images avec des bulles, mais c'est les images du film avec des bulles. Donc ça fait un truc hyper bizarre, c'est comme ça que je les ai découvertes. Oui.
Qui a ensuite été réadapté en film ou pas ?
Non.
C'est bon, c'est arrêté.
C'est vraiment, ils se sont arrêtés là et c'est quand même assez particulier déjà.
Ah bah ouais, c'est les années 70. Hein.
Mais ça avait l'avantage d'être deux histoires complètement originales qui sont canon dans l'univers de Tintin.
D'ailleurs dans les années 70, 69 je crois précisément, les 12 travaux d'Astérix oui. En dessin animé.
Oui. Je crois que c'est 70, je crois dans les années 70 plus 70,
oui, peut-être 76. Ou 76, ça peut être ça.
Qui était une pas trop mauvaise adaptation.
Il y a eu aussi Astérix et Cléopâtre.
Astérix et Cléopâtre, et en dessin animé aussi.
Mais, alors, c'est pas pour me la péter, mais ma mère travaillait en fait aussi sur Astérix et la surprise de César. Donc elle était gouacheuse en fait. Donc voilà, c'est assez rigolo en fait. Voilà.
Ah bah c'est.
Donc j'allais petit à 13 ans au studio de la Gaumont et je regardais en fait, il y avait les projections, les pré-projections en fait d'Astérix. Voilà, c'était assez marrant ça.
En fait, c'est un débat où on pourrait faire plusieurs heures en fait d'émissions consacrées aux adaptations, hein, plus ou moins fidèles. C'est vrai que. Moi j'ai toujours l'appétence des séries qui vont garder le même sujet mais le traiter de manière différente de la BD. On parlait de The Boys par exemple qui fonctionne à fond, qui s'est très très fortement éloigné de la BD, tout en gardant le côté très irrévérencieux mais en apportant un sujet peut-être un peu plus profond et peut-être plus lisible que la BD qui est un petit peu des fois indigeste.
Oui.
Mais bon, c'est un autre sujet.
Je peux dire un dernier truc sur une adaptation que j'avais bien aimée.
Vas-y.
C'est celle de Speed Racer. C'est un manga qui a été adapté par
les Wachowski.
Les sœurs. Oui, alors les sœurs maintenant.
Moi, je mets plus sœurs ni frères, je mets Wachowski.
Voilà, les Wachowski.
Matrix.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Et le film est plutôt assez rigolo à voir en fait. Hein. Donc c'est bien de. Disons qu'il y a vraiment un côté très décalé manga dans sa réalisation. Il y a juste une scène à un moment au milieu où le gamin il fait des conneries, il mange des bonbons avec le singe, bon c'est pas ouf, mais en soi le film est une bonne adaptation du manga, assez rigolote et on a vraiment la dynamique en fait même de la mise en scène et tout, alors que c'est quand même un sacré défi parce que c'est quand même des voitures de course qui se poursuivent dans tous les sens et tout avec des circuits de malade.
Des voitures avec des designs un peu dingues aussi.
Ah oui complètement ouais. Et ce qui est marrant c'est que le découpage, la manière en fait dont les personnages sont présentés, c'est assez c'est assez rigolo quoi. Voilà.
À quand les fous du volant l'adaptation?
Ce serait génial.
J'avoue que je kiffe.
Mais bon, il n'y avait pas de bande dessinée, mais ça c'était un dessin animé.
C'était un dessin animé.
Mais voilà. Mais Satanas et Diabolo et fous du volant, ça c'est un
avec
truc
Michel
de
Vaillant, c'est ça non?
Ah non,
rien à voir.
Non, mais désolé.
Je vous dis, hein, j'ai pas de.
Je suis vieux.
Alors, Michel Vaillant, j'ai eu une petite anecdote il n'y a pas très très longtemps. C'est une anecdote qui n'a rien à voir, mais quand le film a été adapté par les studios de chez Besson, ils ont fait venir quelqu'un qui travaillait au Mans, en fait, pour designer des véhicules et puis venir avec des véhicules pour pouvoir faire les véhicules de l'écurie Vaillant et l'écurie, je ne sais plus comment s'appelle le méchant. Enfin, ils devaient fournir deux voitures. Et le mec vient et puis dit, bah voilà, bah ce serait temps, en fait, pour vous mettre à disposition les voitures. Et là, le mec en face, il fait, non, c'est trop cher. Bon, le mec, il avait tiré ses prix complètement en bas. Il fait, bah, c'est pas grave, je m'en vais. L'autre, il fait, non, restez. Là où la réaction que vous avez, ça montre que je peux pas tirer plus d'argent, que c'est vous qu'on prend.
Ok.
Voilà.
Bon, bah, technique commerciale.
Tu peux pas pousser plus loin.
STGM.
STMG, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça.
Mais je sais plus ce que ça veut dire.
Science et technique de la gestion marketing.
Waouh.
Dites-nous sur le chat du site internet ce que ça veut dire STGM, STMG.
STMG. Bah, du coup, je propose qu'on close cette interlude et qu'on se fasse une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Rosalia avec La Fama. Je ne sais pas si vous aimez.
Adapté d'une bande dessinée d'ailleurs, je crois.
Je suis pas sûr. Mais avec The Weeknd qui s'est fait chirurgique et Élysée et qui ressemble de plus en plus à une bande dessinée. Mais bon, c'est un autre sujet. On se retrouve dans quelques instants sur le 100.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb et on vous laisse avec Rosalia et La Fama.
Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you, she's not for everyone. She will pierce your heart. Then she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama!
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial. Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
What a show! Give it up for La Fama! Don't forget, be careful what you wish for.
Vous êtes de retour sur le 100.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Alors, on va reprendre le cours de l'émission, on s'est fait un petit peu Je sais pas comment dire. Enfin, c'était un plaisir d'avoir Pierre Benoît, même si c'était pas forcément prévu. Donc, on a discuté un petit peu de manière très libre sur des sujets de bande dessinée. Pour recalrer un petit peu, du coup, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Jean-Mathias Xavier, qui est un auteur. Alors, angevino parisien ou angevin?
Angevin. Angevin. Je me sens complètement angevin. C'est bon. Je suis comme Scarlett O'Hara. Ma terre est ici maintenant.
Ok, parce que j'ai lu dans ton compte rendu que tu oscillais toujours entre Angers et Paris.
Ah oui, ça m'arrive, mais c'est plus pour les affaires. J'y vais parfois un peu pour voir la famille, mais réellement, mes racines maintenant, je me suis dépoté et rend à...
comment on pourrait dire ? Réinséré, réenraciné.
Voilà, réenraciné ici.
Ok. Alors, on s'était déjà vu l'année dernière. Pour parler du tome 1 de Space Kittens. Il y a le tome 2 en fait qui est sorti tout début octobre, hein, si je ne me trompe pas. Tu me dis.
Oui, c'est
si,
ça.
Si,
oui.
Si
je... Même il est arrivé, oui, c'est ça, tout début. Non, plutôt fin octobre.
Plutôt fin octobre. Oui. Et c'est un album que tu as passé en financement participatif.
Oui, sur Ulule.
Sur Ulule. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu... J'aime bien faire parler les gens plutôt que de raconter les choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de cet album? Comment ça t'est venu, l'idée de faire Space Kittens?
Alors, en fait, c'est un truc assez rigolo parce que j'aime bien les chats. Et un jour, j'ai eu envie de dessiner en fait, une histoire avec une... Alors, c'est vraiment la genèse. Hein. On va partir dans le côté embryonnaire et qui a même raté. Et après, on a fait autre chose.
Donc, c'est ça qui est intéressant.
Voilà. Donc, en fait, de base, Space Kitten ne s'appelait pas Space Kitten, ça s'appelait Miss Feline. Et c'était l'histoire d'une gamine qui avait 16 ans et qui était une lycéenne. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra ça. Hein, ça pourra être autre chose. Mais je voulais proposer ça en dessin animé, puisqu'à l'époque, je travaillais dans le dessin animé. Et cette gamine qui était lycéenne, un jour... à cause de son frère, se retrouvait avec des pouvoirs incroyables qui lui permettaient de se transformer en fille chat. Donc il y avait ses pérégrinations, ses aventures, donc elle affrontait des méchants, des gentils, tout ça et tout. Donc elle, toujours, en fait, elle pouvait se transformer. Alors, le truc qui était un peu rigolo, c'est que quand elle était humaine, elle était végétarienne, et évidemment, quand elle se transformait en Miss Feline, elle avait envie de manger de la viande, ou elle était complètement fofolle. Elle avait l'esprit chat, en fait, qui prenait le dessus. Je suis arrivé à Angers, donc j'ai déménagé, j'ai laissé le dessin animé derrière moi, je suis arrivé à Angers, et un jour, en dessinant le personnage de Feline, qui a toujours eu ce même nom, hein, donc voilà.
Le même design quand même ?
À peu près le même design, donc à quelque chose près, vraiment, après elle a été un petit peu relookée, facilitée pour vraiment une question en fait de travail, mais elle a toujours eu cette espèce de, Feline ressemble vraiment à une espèce de femme, c'est une sorte de femme avec lionne, on va dire, un peu avec une crinière, donc beaucoup de personnes me disent qu'elle ressemble à Starlion de Cosmo Cat.
Donc,
et ce qui est assez rigolo, c'est que le nom Space Kitten est arrivé, mais beaucoup plus tard. Hein, donc ça restait toujours Feline. J'étais en train de dessiner donc, le personnage de Feline, et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de lui accrocher une gamine sur le dos en train de faire la kéké. Et donc, à partir de là, j'ai dessiné le personnage de Jean. Jean, qui est la sœur de Feline, donc elle qui a les cheveux blancs et a des gros lots, en fait, en guise de boucle d'oreille. Et elle est toute fofolle. Donc, du coup, Feline campe un peu plus sur son côté, en fait, un peu plus mature,
plus
mais quand même, reste toujours un chat. Donc, elle a cet aspect rigolo, marrant et tout ça, d'être enjouée et tout ça. Mais elle est un peu plus posée. Hein. Les chats, quand ils vieillissent, ils sont un peu plus posés, ils ont un peu plus de dignité. Alors que quand ils sont petits, ils sont un peu tout foufou. Donc, et je voulais vraiment avoir. Et je me suis rendu compte, en fait, que le tandem fonctionnait. En plus, il y en a une qui est plutôt dans les couleurs chaudes, l'autre qui est dans les couleurs froides, donc ça fonctionnait bien. Et de ce fait, j'ai dessiné à un moment ces deux filles, j'ai refait un autre dessin derrière, où elles entouraient un gamin, un jeune, qui avait l'air complètement perdu. Le gars, il hallucinait total parce qu'il était entouré de ces deux superbes nanas. Et donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce trio a l'air de fonctionner. Et c'est comme ça qu'est né le trio en fait, des personnages de Space Kitten. Et puis... J'ai décidé d'appeler ça Space Kitten parce que je trouvais ça rigolo dans le côté en fait les chatons de l'espace. Je voulais trouver quelque chose qui était marrant et je me suis pas du tout rendu compte en fait que c'était une espèce de pied de nez au Cosmo Cat, hein, ou au Thunder Cat. Donc qui sont quand même les chats du tonnerre en anglais et les chats du cosmos. Je me suis dit tiens c'est marrant et un jour j'ai croisé un ami Cyril Nefrechou que je salue au passage qui j'étais à Manga sur Loire. D'ailleurs j'y serai là le 12 novembre prochain.
Instant promo.
Voilà, instant promo. Et donc, me voilà avec Cyril Nefrechou qui passe là et il me dit « Ah, c'est marrant, Space Kitten, on dirait une marque. » Et il m'a donné l'idée, j'avais fait un ou deux posters comme ça, il m'a donné l'idée en fait de développer un peu plus la chose. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des posters, des goodies, des petites cartes postales. Et en fait, Space Kitten s'est d'abord développé autour du merchandising, quand j'étais en dédicace, parce que je dédicaçais pour mes livres, les livres en fait que j'illustrais, Louis le Galou et d'autres, et ainsi de suite. Et puis, jamais, en fait, je m'occupais vraiment des Space Kitten jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, ça serait peut-être bien que je m'occupe un peu de mes affaires ou de m'occuper des affaires des autres. J'ai été un peu perso sur ce coup-là.
Donc, pour permettre aux auditeurs de comprendre un peu plus, c'était plus sur le côté illustration pour les autres avant de te lancer dans la bande dessinée.
Complètement. En fait, avant, vraiment, je faisais des illustrations pour les autres. Je faisais des illustrations pour des romans, en fait. Donc, il y avait des éditeurs qui venaient, ou même je passais des accords, ou j'allais voir des éditeurs avec des auteurs qui avaient envie de faire des dessins dans leurs romans. Et finalement, on passait un deal. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait une grosse partie de ma carrière, en fait, de cette manière-là. Donc, en étant illustrateur de couverture aussi. De romans pour la jeunesse et même aussi parfois un peu plus pour les adultes. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que le chemin faisant, il y a à peu près maintenant ça date à peu près d'une dizaine d'années, je me suis dit bon allez, je me lance, une dizaine d'années, je vais faire quand même le scénario des Space Kitten. Donc je l'ai écrit avec une copine qui s'appelait Stéphanie Gaza, que je salue au passage aussi, donc qui n'est plus de la partie aujourd'hui, mais elle m'a fortement... Elle adorait le projet et donc quelque part elle a soutenu et je lui devais un peu ça en même temps.
Elle a servi de levier en fait.
Voilà, à cet album. Et le scénario est resté comme ça pendant 10 ans sur une étagère parce que j'avais vachement de travail, parce que je faisais pas que des illustrations, je suis aussi réalisateur de bande annonce, donc voilà, il y a plein de je croule sous le boulot. Donc mais il se trouve que en 2019, avant le Covid, je finalise le scénario, je fais les planches de BD. Avec mon ami Xavier Hamet, qui a la maison d'édition Exact Concept, il me dit, écoute, moi, je te file un coup de main, on fait le Ulule et on lance le truc. Et là, bim, Covid. Bon.
Bah, mauvais timing.
C'est pas grave, parce que du coup, j'ai pu avancer un petit peu plus sur le projet, on a un peu plus serré les boulons. Et juste un an après le premier clash Covid, ben, je me dis, allez, on se lance, on y va, on essaye quand même de faire les Space Kitten. Donc c'était en 2021, puisque là on est en 2022. Donc en 2021, je lance le crowdfunding de Space Kitten. Et en fait, ça s'est bien goupillé, parce que pendant à peu près... j'ai commencé ma carrière d'illustrateur en 2009. Et donc en fait, j'ai eu toute ma fanbase en fait, qui m'a suivi. Et là, d'un seul coup, j'ai vu le truc décoller et en l'espace d'un week-end, on était déjà à 30-35% du financement. Donc, ce qui était très bien, parce que ça veut dire qu'un financement participatif, j'explique un petit peu comment ça marche.
Ouais,
vite fait.
Alors, est-ce qu'on peut on en parlera juste après, on va faire une petite pause musicale entre les deux.
Pas de problème.
Et puis on détaillera un petit peu le processus de financement participatif.
Et on parlera bien sûr des Space Kitten.
Bah oui, c'est quand même le but.
Tout de même.
Donc, alors là, j'ai fait une petite pause musicale un peu. Elle va être courte, hein, mais.
Avec plaisir.
Allez, un petit générique des Cosmocats.
Allez.
Allez. Une petite dose de nostalgie pour tout le monde.
Carrément.
À tout de suite sur le 100.5 de Radio G. Allez, on reprend sur le 100.5 de Radio G après ce petit shot de nostalgie. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas pris sur le bon bouton.
Hop, de retour sur le 101.5 de Radio G, après un petit shot de nostalgie avec Cosmo Cats, alors ce qui nous permettait c'était d'échanger un petit peu jeu vidéo.
C'est dans le ton.
Ah ben on pouvait pas faire mieux, je pense.
Ah non.
Nickel. Ça fait du bien. Moi, j'aime. Enfin, ouais, ouais. Ça remet d'aplomb, ça remet, donne le sourire. Puis je pense que tout le monde, tous ceux qui ont au moins notre âge, connaissent ce générique par cœur.
Oui.
Tout le monde a brandi sa règle dans la cour de récré.
Transformers.
Transformers. Enfin, si on commence à faire du blind test, on n'a pas fini. Et on n'aura jamais le temps de parler de Space Kittens.
C'est vrai, oui, tout à fait. Donc, la genèse du projet étant expliquée.
Est-ce qu'on parle de l'album directement? Et puis après, on parlera un petit peu de comment le financement a pu se faire. Est-ce que tu veux nous dire de quoi ça parle?
Alors,
ou est-ce que tu veux que je fasse un résumé?
Non, vas-y, fais le résumé.
Alors.
Je t'en prie.
Je suis mauvais en résumé. Hein,
c'est pas grave, je te fais confiance.
On va suivre deux jeunes filles, Jean et Féline, qui sont des extraterrestres mi-femme, mi-chat, oui. Qui vont se réfugier sur Terre pour empêcher
le complot du M.
Voilà, le complot du M qui veut mettre le malheur sur les humains et leur
drainer leur énergie.
Voilà, leur drainer leur énergie vitale, grâce à ça. Et ils ont besoin pour ça d'un cristal qui se trouve sur le front de Féline.
Oui, voilà. Qui est le l'émeraude de l'espoir.
J'avais perdu le nom, mais qui visiblement n'est pas le seul bijou. Mais ça, on va pas spoiler non plus.
Bah, un petit peu, on a le droit quand même.
On a le droit de spoiler un petit peu.
Oui, au contraire, il faut donner envie. Okay.
Enfin, faut aller vraiment à la fin du 2 hein, pour avoir un peu plus d'infos. Oui, mais... Et du coup, ces deux jeunes filles vont atterrir chez un jeune garçon qui est plutôt studieux et qui passe plus de temps à étudier qu'à...
Très sérieux.
Très, très, beaucoup trop.
Mais oui, un peu trop.
Un peu psychorigide. Mmh. Et elles vont le perturber beaucoup. Parce que du coup, il n'a pas l'habitude des filles, il a plutôt l'habitude d'être tout seul, tranquille dans sa tête, et elles viennent mettre un petit peu le bazar dans sa vie.
Bah, déjà, un chat, c'est soi, ça fout le bazar. C'est donc, si en plus, c'est des filles chats qui arrivent chez lui, là, le gars, il perd pied, quoi. Et du c'est coup, ça qui est intéressant.
Ça donne cet écart vraiment, c'est ce que tu disais, un trio qui fonctionne avec des caractères qui sont très, très différents. Et du coup, suite à un petit souci de santé, elles vont le soigner et ça risque d'avoir des conséquences un peu particulières.
Irréversibles même.
Et là, ça, pour l'instant, on n'est pas rendu là.
Non, mais disons que, voilà. Alors le truc qui est rigolo dans les Space Kittens, je vais embrayer, c'est que j'ai mis en fait tous les ressorts de la comédie. Ça veut dire que la comédie, c'est quoi? C'est une situation dramatique qui est tellement poussée à son extrême que du coup, ça en devient drôle. C'est le gars qui se casse la figure dans l'escalier et qui, au final, quand il arrive en bas, sans le faire exprès, il y a un pot de fleurs, un piano qui dégringole et bim.
Il enchaîne.
Voilà, et il enchaîne en fait les galères. C'est un peu comme dans La Chèvre, en fait, finalement, avec. Avec Pierre Richard. Donc c'est vraiment en fait cet aspect-là. Plus le personnage en fait est en difficulté, plus en fait on va avoir de l'empathie envers lui et plus en fait cette difficulté est mise de manière en fait rigolote, évidemment, hein, mise en exergue, bah, plus c'est drôle. Et le fait de mettre des chats, déjà il y a un chat en plus, il y a le chat violet qui s'appelle Bouli qui parle avec son accent slave.
Avec son accent slave.
Donc, et on découvrira dans le 3 justement pourquoi est-ce qu'il a cet accent-là. Donc donc voilà. Il y a ce chat qui parle avec des gestes et puis qui a une orbe de paroles qui vient quand même mettre le bazar lui aussi. Donc Leroy, il est complètement perturbé, ça veut dire que il va pas gérer, quoi. C'est-à-dire qu'il comprend rien aux filles, elles de toute façon elles comprennent rien aux humains. Donc elles ont des manières en fait d'être qui sont pas du tout en fait sociales. Donc
elles n'ont pas de, je dirais qu'elles sont sans filtre.
Oui.
C'est complètement normal d'aller prendre leur douche avec un garçon, par exemple.
Non, c'est pas ça, c'est qu'elle trouve que la douche c'est cool et pour elle, c'est pas un problème de proposer à Leroy de prendre la douche avec elle. Mais parce qu'il y a une intention, on va dire.
Non, c'est juste normal pour elle.
C'est juste
en fait.
Parce que c'est cool de prendre une douche ensemble, de se frotter le dent, d'être là, machin et tout. Et puis garçon, fille, pour elle, il n'y a pas de problème. Quand on regarde les chats entre eux, garçon, fille, ils s'en foutent. Donc il n'y a que nous, en fait, humains, en fait, qui mettons en fait des barrières en disant oh oui, les humains, les garçons, les filles, on va tous séparer, et tout ça du tout. Mais ça, c'est notre culture gilo-chrétienne et en fait même plus large. Donc, et c'est ça qui est rigolo, c'est de pouvoir mettre en place des personnages en fait qui, comme ils n'ont pas la même culture que nous, d'ailleurs, il y a un truc tout bête, c'est qu'elles n'ont jamais vu de douche dans le premier. Hein. Donc, dans le tome 1,
elles découvrent.
Voilà, elles découvrent, elles disent, c'est quoi ce truc-là? Parce que des extraterrestres qui arrivent sur Terre, bah, ils n'ont jamais vu peut-être de cuillère, ne serait-ce qu'ils vivent chez nous, et ils se disent, qu'est-ce que c'est? C'est, ils ont peut-être pas les mêmes systèmes, en fait, les mêmes codes, les mêmes mobiliers. C'est, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, et puis, si, suivant la technologie qu'ils peuvent avoir, si supposons, en fait, que c'est des extraterrestres qui font apparaître, qui ont un pouvoir sur la matière, on va dire, ils ont, en fait, des nanomachines. Imaginons que c'est vraiment une technologie très poussée, hein. Et ils ont des nanomachines qui peuvent faire apparaître, en fait, des objets, en fait, de la matière. Alors qu'ils font apparaître un siège du sol ou des choses comme ça, ce qui un jour sera tout à fait possible, peut-être pour les êtres humains, parce qu'ils seront reliés à des nanomachines et qu'on sera entouré de nanomachines, par exemple. Et ben, eux, ils voient une chaise, ils disent, c'est quoi ça?
C'est pourquoi
une chaise, voilà, en micro-ondes. Donc il y a tout un tas de trucs. Il y a d'ailleurs toute une scène dans le 1 en fait où elles sont très étonnées de voir des œufs. Elles trouvent ça très rigolo, très mignon, et commencent à jouer avec les œufs comme les chats jouent avec des balles. Et le gamin, lui, il est complètement flippé parce que bon, ça vient à la cuisine. Et évidemment, ça se finit en grosse bataille avec la farine, tout ça, machin, c'est n'importe quoi. Donc et par dessus ça, il y a le conflit cosmique qui arrive avec l'organisation du
M. Il y a des antagonistes. Alors il y en a surtout un dans le premier. On en a un peu plus dans le 2. Avec des designs très particuliers qui peuvent rappeler aussi des choses qu'on a vues. On parlait de Goldorak un petit peu. Oui. Il y a un des antagonistes en particulier, alors qui intervient moins, qui me fait beaucoup penser à...
Oui. Alors disons que en plus, bon, Space Kitten, à part être une BD en fait qui raconte l'histoire de ces fichas qui arrivent sur Terre et qui mettent le bazar chez Leroy, c'est aussi un hommage à toutes ces séries en fait que j'aime et que j'ai toujours aimé regarder et que ça m'a toujours fait délirer. En commençant par Goldorak, il y a aussi Albator, il y a le design du vaisseau dans le 2, il ressemble énormément, on va dire, à l'Arcadia de Albator, et c'est vraiment en fait avec un grand sourire que je le dessine. Donc
il y a un angle très précis.
Complètement, c'est complètement ça. Donc quand Albator fait un épronage en fait des vaisseaux des cils vidres, c'est vrai que j'ai ça en mémoire et moi j'ai envie de dessiner un truc dans ce genre-là. Donc c'est des choses en fait qui sont assez rigolotes. Pour donner un petit clin d'œil aussi comme ça, les vaisseaux en fait de Kitania, donc qui sont les vaisseaux en fait des gentils, les chasseurs de Kitania ressemblent un peu en fait de très loin aux petits vaisseaux du jeu vidéo Star Fox sur Nintendo 64, donc qui était tout en losange. Donc alors il y a plein de clins d'œil comme ça qui sont assez rigolos. Donc voilà. Et
je suis perdu. Je suis en train de chercher les vaisseaux. Parce que j'ai pas vu Star Fox. Moi.
C'est-à-dire qu'il faut voir en fait les petites. Alors il y a plein de clins d'œil comme ça en fait. Donc et les méchants, c'est vrai qu'ils ont un look. De toute façon, la bande dessinée, je voulais qu'elle ait un petit look années 80. Donc voilà. Et même dans la façon en fait dont ça amené, mais tout en étant en fait moderne, parce que les sujets qui sont traités sont des sujets en fait de gamins en fait d'aujourd'hui qui ont des difficultés avec les filles, avec les garçons, les filles, tout ça. Et puis en même temps, en plus, dans le 2, ils vont quand même à une fête cosplay, hein, quand même. Donc voilà, avec des personnages en fait qui sont de nos séries à nous, hein, donc d'aujourd'hui. Donc il y a, et c'est ça qui est marrant
Captain
en même temps.
Flamme.
Oui, tout à fait. Mais il y a aussi des dans le cosplay, dans cette fête, il y a aussi des Luffy, il y a Sailor Moon, il y a plein de personnages un peu rigolos. Et puis bon, il y a aussi non seulement c'est un hommage en fait à ces séries et au rythme aussi des séries en fait que je regardais quand j'étais gosse. Le soap américain aussi, comme on peut retrouver dans Madame est servie, Bill Cosby.
La famille d'abord, ou
ouais,
ce genre de
choses. Tout à fait. Ce côté qui était très familial, rigolo, hein, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi un amour énorme, en fait, qui est révélé au travers du tome 2. Déjà, dans le tome 1, on l'avait, mais du tome 2 sur Angers. Angers et ses alentours. Puisqu'on retrouve le château de Brissac, quand même, la fête cosplay. Alors, je spoil à fond, hein, mais...
Voilà. Il faut quand même le lire, hein, parce que c'est quand même mieux, je précise.
Oui, voilà, c'est quand même rigolo, c'est ça qui est marrant. Et y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, ça se passe à Angers quand même. Hein. Donc voilà quoi. L'histoire se passe à Angers, c'est jamais dit, vraiment clairement, mais les Angevins.
Reconnaissent.
Ah bah ils reconnaîtront. Moi j'en ai déjà quelques-uns qui m'ont dit sur le tome 1, ils me font, ah mais dis donc, mais en fait là t'as mis l'avenue Foch là et tout ça. Je fais, oui, tout à fait. Il y a la Maison Bleue, oui.
Après,
oui,
c'est là où on source le mieux, de toute façon, c'est les choses.
Mais moi j'adore, en plus on a une ville qui est magnifique, donc, et on a un environnement qui est super, c'est autour de nous. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça se passe dans un autre endroit? Donc voilà quoi.
Comment ça se passe du coup, le fait de ça te vient au fil de l'eau de mettre des références comme ça, ou il y a des moments où tu dis tiens je veux absolument mettre telle référence?
Les deux. Par exemple, dans la fête cosplay, quand Damien était déguisé en Captain Flamme, ouais. Je savais pas encore en quoi j'allais le dessiner, en quoi j'allais le déguiser, jusqu'au moment en fait où j'ai commencé à faire les planches. Et c'est quand j'ai fait les planches en fait du storyboard que je me dis ouais non, ça serait trop bien qu'il soit en Captain Flamme. Donc voilà. Mais vraiment au moment en fait où j'avais dit il a un déguisement donc parce qu'il est là en fait aussi, puisque c'est lui qui organise la fête. Mais pour la petite histoire, Damien est la némésis de Leroy. Donc voilà, et c'est vraiment en fait son rival d'une certaine manière, hein, voilà, mais humain. Donc voilà, mais c'est vrai que il y a des choses en fait qui viennent au fur et à mesure, et puis il y a des trucs en fait quand je suis en train de dessiner, je dis oh bah tiens, je vais faire ça, c'est marrant, voilà. Pour tout ce qui est le repérage, par exemple, pour l'endroit, les lieux, où est-ce que ça se passe et tout ça et tout, là par contre, oui, c'est vrai.
Planifié.
Là tout de suite, c'est déjà planifié. Je vais au jardin du mail, je prends des photos, des trucs et tout pour les réutiliser. Voilà quoi. C'est parce que je trouve, c'est, en plus, il y a cet aspect qui est hyper, hyper agréable. C'est-à-dire qu'on conçoit une bande dessinée et en même temps, on s'approprie, on se dit, mais je vais faire. Moi, j'aime tellement en fait aussi ma ville. C'est pour ça que je disais que mes racines sont ici hein, maintenant. Que je me promène et je regarde et je me dis waouh, là c'est trop bien ce cadrage, ça serait bien qu'il y ait une situation qui se passe là et tout, voilà quoi.
On va parler un petit peu méthode de travail du coup. Tu dis qu'il y a beaucoup de choses que tu prévois comme ça. Est-ce que le format de la BD pose des frustrations des fois, de se dire bon bah tiens, j'ai tellement de choses à faire rentrer dedans, comment je fais tout rentrer?
Comme un film, ça veut dire qu'on fait plus de scènes au storyboard et puis après on coupe dans le storyboard. Voilà, c'est que le tome 2 par exemple, comme le tome 1 avait 117 pages à peu près et il a fallu quand même le faire rentrer dans 96 pages parce que c'était prévu qu'il y ait 112 pages et donc il y avait le reste. Après c'était une galerie d'images avec des copains qui mettaient en fait des Space Kittens dessinés par leurs soins et ça j'y tenais, donc voilà.
Et, qu'on retrouve dans le 2 hein.
Qu'on retrouve aussi un petit peu dans le 2 aussi. Il y a toujours une galerie un peu plus petite cette fois-ci, la galerie d'images, mais parce qu'il y a aussi un concours de BD, un concours autour de Bouli. Donc on a mis les dessins en fait du concours qui a été fait par les fans de Space Kitten. Donc voilà. Mais par exemple là sur le 2, il y avait 130 pages que j'ai fait. Et au moment où j'ai fini mon storyboard, j'ai fait oh là là, j'ai un vrai problème.
Ça déborde un peu.
Ah bah non seulement ça déborde, mais en plus le problème c'est que il faut les faire les pages. Ça veut dire qu'il faut quand même un moment revenir à quelque chose de raisonnable. Ça veut dire que c'est à peu près pour moi en tout cas c'est une à deux, voire plutôt deux pages plutôt par jour, et parfois c'est une quand elles sont vraiment un peu plus complexes où il y a beaucoup de cases. Mais de manière générale, je fais à peu près deux pages par jour. Donc en noir et blanc. Hein. Je pars vraiment en fait sur le côté normalement, puis après sur la couleur, il faut encore ajouter une journée. Donc voilà. Mais si on part simplement sur le principe de la création de la BD, passer du storyboard au noir et blanc, bah, tu imagines 30 pages de plus, c'est juste le truc.
Ça fait quand même quelques jours de plus.
On explose en fait le planning et on livre pas la BD pour Noël.
Donc là,
non, voilà. Donc du coup, bah, c'est frustrant. On regarde, on se dit bon, bah, cette scène-là, on l'enlève. Celle-là. Comment est-ce que je vais me démerder pour arranger en fait, pour réussir à faire en sorte.
Et c'est pour ce petit bout-là raconte quelque chose.
Voilà, ouais. C'est ça. Et il y a tout en fait, il manque par exemple 16 pages. Enfin, il manque pas parce que la BD commence sur son train, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y avait 16 pages avant en fait qu'on se retrouve avec Leroy en train de la BD commence. Il y a toujours un petit préambule, ça c'est important. Il y a 4 pages pour le préambule, c'est-à-dire que et après il y a les chapitres. Donc le préambule il existait déjà, donc ça c'est okay. Fait. Mais il y avait un chapitre entier, donc un peu plus d'une dizaine de pages qui existe où on avait Leroy qui était. Il y avait toute une scène avec Leroy dans la nuit, avec le chat, Bouli, tout ça, machin, et tout, vrai bazar. Et puis ensuite, on le voit, et la BD commence avec lui. Là, aujourd'hui, la BD commence avec lui qui est en train de courir, en train de dire « Ah, j'en peux plus, les filles, ça fait une semaine qu'elles sont là, elles dorment avec moi, c'est vraiment une catastrophe, je suis en retard pour aller au bahut. » Et en fait, la BD commence là. Et on comprend. C'est là, en fait, où je peux me permettre de me dire « Bah, tiens, finalement, si le dialogue est adapté, on comprend en fait que ça fait une semaine et le personnage, vu qu'il l'explique...
C'est implicite.
Voilà, exactement. Okay. Et là, en fait, ce qui est rigolo, c'est que la page chapitre 1 en fait, des Space Kitten n'était pas comme ça au début. Et c'était pas celle qui existe aujourd'hui, qui est une page en fait, où on voit le gamin en train de dormir avec les filles, en train de dormir avec lui en pyjama. Alors tout le monde est en pyjama, évidemment. Hein, mais elles dorment comme des chats qui dorment avec vous sur votre lit. Et vous avez les deux filles, le chat qui dort sur le gamin. Et lui, il a les yeux ouverts, genre il n'en peut plus et il ne dort pas. Donc,
il a des cernes en plus. Hein.
Voilà, il a des cernes, il est super fatigué. Et en fait, cette page chapitre résume la situation en fait, qui est, voilà, comme tu dis, c'est implicite. Donc voilà. Et on fait des raccourcis comme ça.
De condenser certaines infos.
Oui, mais en même temps, c'est intéressant parce que tu vois, ça donne du rythme aussi à la BD. D'un seul coup, en fait, on plonge le... Il y a deux manières de faire une bande dessinée, c'est-à-dire qu'on fait soit une introduction et après on lance le sujet, soit on lance le sujet tout de suite. Moi, j'ai lancé le sujet tout de suite.
On part in medias res, c'est ça, comment dire?
Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ouais, voilà.
Après, c'est, enfin, l'image où on le voit, Lyra, justement, qui dort pas avec les deux filles qui sont autour de lui, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça résume en une seule image. On est obligé de condenser et de trouver d'autres idées pour raconter quelque chose qu'on aurait, on va dire, délité un petit peu autrement.
Voilà. Mais en même temps,
c'est obligé d'être créatif.
Bah oui, voilà. Ouais. Bon, après, mon métier d'illustrateur m'amène à pouvoir réussir à condenser en fait en un chapitre, en une image. Donc un chapitre écrit, hein, donc puisque quand je faisais des illustrations pour des romans, il faut trouver l'image pitch qui donne envie de lire le chapitre, mais qui n'en dit pas trop. Donc là, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était exactement pareil, mais sauf qu'il n'y a rien à lire. Tout est à regarder. Voilà, vous voyez, le mec, il est là au milieu dans son lit. Il y a les deux filles qui sont par-dessus lui, le chat, tout le monde est sur le lit. Et lui, il ne dort pas, il n'en peut plus de sa vie, quoi. Il est au bout de sa vie. Et c'est ça qui était rigolo de faire, en fait, cette illustration comme ça. Et en même temps, c'est ça qui est marrant, c'est de faire un truc, d'essayer de faire quelque chose de joli et de marrant, quoi.
Et pour pouvoir pousser, effectivement. Ouais. La lecture, donc, et que ce soit agréable.
Oui, au final, bah, parfois, oui, il fait faux. Mais c'est pas frustrant, hein, pas du tout, quoi. C'est même super intéressant parce que ça demande, en fait, vraiment de travailler sur le rythme aussi de la BD et de voir si ça colle.
Complètement. Je te propose de faire une nouvelle pause musicale.
Parfait.
Et puis après, on va pouvoir parler du côté très action de Space Kittens et puis parler de Grimelda Hochkorn, qui est un album plus illustration, plutôt oui. dans ton travail d'origine. On se retrouve juste après Florence et The Machine avec Kiss with a Fist.
À tout de suite.
I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed.
The Machine sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb, je suis toujours en compagnie de Jean-Mathias Xavier et on parle toujours de Space Kittens, le tome 2 qui est sorti. On évoquait plein de choses encore, oui. On digresse beaucoup dans la musique et on parlait de choses qui sont, comment dire...
De Samson et Goliath.
De Samson et Goliath, de nostalgie.
Un vieux dessin animé.
De la nostalgie à toi, ouais. Parce que du coup, moi, je ne l'ai pas connu, ou très peu connu, ce dessin animé. Pourtant, on n'a pas un si gros gap d'âge entre les deux. Mais
Parfois, à une année près, on a loupé. Puis moi, après, je n'ai pas décroché. Donc, comme on disait, la culture visuelle, c'est un truc. Hein. Voilà, quoi,
c'est ça. Voilà. Ça se nourrit, ça s'infuse.
Ah oui.
On va continuer de parler de Space Kittens, oui. C'est quand même ça le sujet. C'est une BD qui a peu de temps mort en fait. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de passages vraiment très rythmés. Il y a même, alors c'est pas forcément, même si t'as un trait qui est peut-être un peu plus manga que comics, il y a quand oui. même beaucoup de splash pages
oui. Ah, j'adore,
qui ça. Cartonnent ça. Et comment tu construis une scène d'action et comment tu, on va dire, tu travailles ton dessin au quotidien?
Disons que je sais que il y a certaines scènes quand j'écris le scénario, Après, en fait, je l'imprime. C'est un truc tout simple. Hein. Je l'imprime et je sais qu'il y a certaines scènes que je veux vraiment en fait que ces scènes-là soient en double page ou en une page. Ça, donc, je crée tout de suite en fait la page en question. C'est-à-dire que je me dis celle-là, quand elles mettent un coup de pompe au méchant, il faut que ça soit une double page, il faut que ça fasse bam et que ça soit à fond.
Et tu l'as déjà visuellement ? Tu l'as storyboard tout de suite ?
Bah, j'ai déjà la case. En fait, la case, okay. En fait, elle est dans ma tête. C'est-à-dire que donc du coup, il suffit de la mettre sur. En fait, finalement, une case qu'elle soit petite dans une page de BD et qu'il y en ait 8 avec elle ou 5 ou qu'il y en ait qu'une, c'est toujours une case. Donc l'illustration existe. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que je ne conçois pas ma bande dessinée. Disons que je les conçois en fait case par case d'une certaine manière, on va dire, et après je les agence pour qu'elles tiennent en fait dans une chaque case à son illustration. Et okay, du coup c'est pour ça qu'elles sont
la BD case par case plutôt que page par page.
Ben en fait c'est un peu les deux, c'est ça qui est curieux. C'est que quand je suis en train de faire ma bande dessinée, je vois chaque image et chaque image en fait est une scène qui bouge, donc il faut que je fasse pause. Imaginez en fait que vous regardez un film. Voilà, on va faire ça. C'est beaucoup plus simple. Vous regardez un film, vous faites pause à un moment important, mais vous faites pause au moment où c'est important. Et tac, vous faites le dessin. Et après, vous continuez le film. Tac, vous faites pause à nouveau parce que par exemple le personnage, il prend en fait, il va pour mettre un coup de poing. Et là, il arme son coup de poing. Puis après, paf, il met le coup de poing. D'accord, ok. Donc vous armez le coup de poing, vous faites pause, vous dessinez. Et après, paf, vous faites le dessin au moment. Mais ça, c'est toujours dans des cases. D'accord, ok. Donc moi en fait, quand j'écris le scénario. J'ai tout le film qui est en train de se dérouler dans ma tête et je fais des pauses. Pause, et je dessine ce qui est le plus intense. Je capte en fait le moment le plus intense de cette action. Donc, et parfois, justement, et c'est pour ça que c'est ça qui est c'est à rigolo, c'est que tu disais justement que ça reste rythmé. Et pourtant, il n'y a pas tant de baston, en fait, finalement. Les personnages vont à droite, à gauche, ils vont au lycée, ils reviennent et tout ça. Il y a des échanges entre les personnages aussi. Mais ça aussi, il faut que ça soit le moment en fait avec le plus haut et le plus fort dans la scène d'action. Et ça se fait vraiment travailler sur l'action pose et donc de faire en sorte que le personnage, quand il se retourne et qu'il regarde la fille, qu'il dit mais c'est pas ça que je voulais dire. Il faut que le personnage soit dans une scène en fait où on est dans le maximum de son expression.
Pour ça qu'on a cette impression peut-être de mouvement qui ponctue tout l'album, quoi.
C'est ça.
Qu'en fait, on pourrait résumer en disant que c'est un storyboard très poussé en fait, du dessin animé qui se déroule dans ta tête.
C'est ça, exactement. Voilà. Et ça, en fait, si on prend par exemple Dragon Ball, Toriyama faisait ça. Voilà. Je ne me compare pas à Toriyama, mais en fait, j'ai étudié, on va dire, le storyboard dans le dessin animé. Donc, puisque j'en faisais avant de commencer à l'illustration, quand j'étais dans ma carrière d'animateur et de storyboarder dans le dessin animé. Et justement, il fallait donner toute l'intention. Donc, le storyboard donnait déjà l'intention de la scène. Et puis ensuite, après, il faut l'animer. Donc, voilà. Et au final, Toriyama, quand on prend les bandes dessinées de Toriyama, ils ont fait l'inverse. Chez Toei, ils ont pris la bande dessinée et après ils ont adapté les cases pour en faire un dessin animé. Mais beaucoup de scènes en fait de Dragon Ball sont en fait des cases propres en fait au storyboard. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quand on arrive à pouvoir voir le film dans sa tête et que on dessine chaque pose extrême et qu'on n'est pas pour pouvoir faire ça aussi, il faut être très à l'aise aussi en anatomie, dans les fondements même en fait de la bande dessinée. Et puis aussi savoir les éclater hein, parfois parce qu'il y a des angles de vue qui sont impossibles, mais on s'en fout, on les fait quand même parce que c'est ça qui est rigolo quoi.
Si ça a l'air crédible, ça doit marcher.
C'est ça, exactement.
Ok.
Voilà.
Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Parce que je vois le temps qui défile. Oui. Et si on veut parler de Grimelda, il faudra qu'on puisse l'aborder un petit peu. À part le fait que c'est super bien, que graphiquement, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire, que ça envoie, parce que du coup c'est des couleurs qui sont quand même très, très pêchues.
Oui.
Je trouve que c'est hyper dynamique, ça passe très bien. Ma fille approuve.
Oui.
Je lui fais un bisou d'ailleurs si elle m'écoute. D'ailleurs, va ranger ta chambre et puis après va te coucher. Mais du coup, ouais, ça passe vraiment bien. Ça se lit. Alors, je vais pas dire rapidement, mais en fait, quand on est dedans, on voit pas le temps passer. C'est ça aussi la différence.
C'est le principe d'une bonne BD. C'est qu'on tombe dedans et on la lit jusqu'à plus soif. Et puis quand on se dit, oh non, c'est déjà fini. Donc voilà. Si je peux rajouter une petite chose, c'est que l'année dernière, en 2021, j'ai sorti 1000 exemplaires du tome 1.
Okay.
Et j'ai eu le plaisir cette année de retirer le tome 1 parce que j'étais arrivé à la fin en fait j'ai écoulé les 1000 exemplaires. Alors il faut quand même la bande dessinée Space Kitten je la produis en entier hein, donc
oui c'est de l'auto-édition hein, quasiment.
Entre autres oui parce que l'auto-édition c'est à dire que j'aurais pas de société, je serais juste auteur. Là c'est je le fais au travers de ma société avec Exact Concept, mais effectivement c'est quand même édité. Il y a un éditeur derrière, il y a un numéro ISBN, c'est quelque chose en fait qui est
qui est déjà bien cadré,
qui est cadré dans la loi, on va dire, et dans les principes même en fait des systèmes d'édition. Donc on peut pas dire que c'est-à-dire que c'est pas
de l'auto-édition. Tu n'as pas 50 personnes derrière toi
voilà.
non plus.
Mais j'ai pas, mais de toute façon, voilà, j'ai pas 50 personnes, mais on a quand même, j'ai quand même une équipe à peu près de 8-9 personnes quand même qui travaillent avec moi sur Espèce Kitten. Je les salue au passage, Xavier, Sandrine, Emmanuel, tout ça, bref, voilà. Et je les cite pas tous, hein. Laetitia d'ailleurs, qui est aussi ma co-auteure sur Espèce Kitten. Et c'est vrai que, donc je suis arrivé à la fin des 1000 exemplaires. Là, j'ai retiré donc encore des exemplaires en fait du tome 1. Donc pour pouvoir les, parce que en fait ça marche super bien. En un an en fait, en faisant que des conventions et deux ou trois librairies, mais j'ai fait que des conventions, j'ai vendu les tous les exemplaires. Et bien sûr, il y avait les 450 exemplaires qui étaient pour les contributeurs, mais c'est un bon score. C'est un très très bon score.
C'est un bon score en BD actuellement en plus.
Quand on fait tout à l'huile de coude, ouais, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que. Et puis là, je viens de finir le Chibi Rouen, où j'étais donc à Rouen, et il y a eu des personnes qui sont venues acheter le 2 parce qu'ils étaient super contents d'avoir eu le 1. Quoi. Ils ont dit, ah c'est génial, vous êtes là, super, ah, je veux le 1, je veux le 2. Et je vais même le prendre pour mon petit frère, ma petite soeur. Donc voilà, donc ça part super bien. Le design donne envie.
On en parlera juste à la fin pour dire que bah, tu auras des événements, oui. Tu en parlais tout à l'heure, où ce sera aussi l'occasion de venir se faire dédicacer, parce que tu réalises des dédicaces qui sont quand même plutôt stylées. Je laisserai les gens pour leur donner un petit peu envie. Si vous voulez être sûr en fait, d'en avoir, bah, je pense qu'il faudra aussi se ruer sur le financement participatif du 3.
Oui, par exemple, tout à fait. Ouais. Ou aller sur le site space-kitten.com.
Donc là, vous pouvez la commander directement.
Voilà, on peut la commander aussi sur le petit site. Alors, il est pas super ouf le site, mais on s'en fout. Hein, c'est juste si pour acheter la BD. Voilà, on peut lire un bout de la BD du 1, le bout de la BD du 2, et puis voilà, on a des aperçus. C'est voilà, space-kitten.com. Voilà, un petit coup de promo.
On parlera des événements très rapidement, parce qu'on va parler vite fait de Grimelda Hochkorn, où là tu fais que du travail d'illustration, donc couverture à l'intérieur.
Et illustration, ouais.
Et illustration, et c'est un travail que tu as fait pour. Alors,
Flammarion.
Voilà. Et je cherchais le nom de l'autrice.
Et c'est Cassandra O'Donnell, en fait. Voilà. Alors, Cassandra O'Donnell, je vais vite fait le dire comme ça, mais elle est quand même. L'une des numéros 1, je ne sais pas s'il y en a vraiment d'autres en fait, mais elle est vraiment très 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 très, très bien cotée chez Flammarion. Et donc quand elle a proposé à Flammarion de faire un conte pour enfants un peu horrifique, rigolo en même temps, parce que avec des monstres tout ça et tout et tout, Flammarion se dit ok, on te suit là-dessus parce que Cassandra a une super plume. Donc voilà, elle écrit très très bien en fait, elle a fait plein de bouquins qui ont très bien marché. C'est pas la première fois que je travaille avec elle. Mais pour le coup, là, c'est le premier album en fait qu'on fait ensemble. C'est son premier album, mais c'est le mien aussi. Et on est déjà. Alors c'est rigolo parce que là, en une semaine, il y en a eu 1000 déjà de vendus. En une semaine d'exploitation.
Semaine.
Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Moi, j'aimerais bien. On parlait tout à l'heure en une année pour Espèce Kitten. Bon, après, c'est pas la même chose. Le livre est quand même tiré à 9000 exemplaires et ils sont super contents parce que voilà, c'est la force de Flammarion aussi. Hein. C'est partout dans toutes les librairies, on le trouve. Chez La Sadel, à la Fnac, toutes les librairies de France et de Navarre. Et à Angers, on le trouve pas mal. D'ailleurs, j'étais encore en dédicace samedi à la Luciole. Et donc, Grimelda Hochkorn, c'est vraiment un conte magnifique, puisque c'est l'histoire d'une petite souris. Je vais faire le pitch. Qui est une histoire d'une petite souris qui est une sorcière. C'est une petite souris sorcière de Salem. Et elle est très triste. Parce que en fait, ses sœurs sorcières se moquent d'elle parce que Grimelda, elle a un cœur. Et un cœur, ça vous dit de faire des gentillesses, ça vous dit pas surtout de faire des bêtises. Et donc, elle est très embêtée parce qu'elle voudrait être acceptée par ses sœurs sorcières et parce qu'elles font des trucs horribles et tout ça, elles font tomber les dents des gens et tout, elles transforment en gouttes d'eau, voilà. Et donc, elle aimerait bien faire des crasses, mais le truc, c'est qu'elle peut pas, donc pas à cause de son cœur. Donc, elle part dans la forêt rencontrer des monstres pour l'aider à enlever son cœur. Le problème, c'est que les monstres en question qu'elle rencontre ne connaissent rien, ils savent faire peur, mais ils y connaissent rien aux histoires de cœur. Toute l'histoire va être justement que
sur
finalement,
cette quête, en fait, voilà, c'est vraiment un quête. Conte.
Voilà, c'est un conte et c'est super beau. Voilà.
On va être obligé de s'arrêter là. That's all, folks. Je vais même être obligé de me passer de générique, sinon on ne pourra pas parler des futurs événements auxquels tu vas être. Je te laisse résumer très rapidement les prochains événements auxquels tu vas participer, auxquels on pourra aller te voir.
Tout à fait. Donc en fait, le 12 novembre, je suis donc à Manga-sur-Loire, qui est à Mont-Louis, qui est entre Angers et Tours. Donc Donc voilà, c'est le samedi. Et que le samedi, je serai là-bas avec, justement avec les Space Kitten. Et ensuite, le 2-3 décembre, je fais donc le festival Angers BD où je suis invité. Donc on peut me retrouver sur mon stand. Je serai là-bas avec Space Kitten aussi, pareil. Et le 10 décembre, je suis en dédicace à la FNAC culturelle Leclerc. Donc, pas à la FNAC, à l'espace culturel Leclerc, le 10 décembre prochain. Donc toute la journée, c'est un samedi. Et donc je vous attendrai, et là par contre j'aurai les Space Kitten, Grimelda Hochkorn et bien d'autres livres encore, puisque justement on en a pas mal chez Flammarion et j'en ai une palanquée.
Et bien le rendez-vous est pris, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Et sur le 100